you. I wanna be loved by you alone.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciat, et bienvenue dans votre émission Page à Page, où nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h. Alors aujourd'hui, je reçois Maud Langlais. Bonjour Maud.
Bonjour.
Voilà, qui est illustratrice d'albums jeunesse, de livres pour les petits et les un peu plus grands. Elle nous en parlera dans un instant. Mais comme à l'accoutumée, je commence avec quelques petites infos autour du livre. Alors ce sont les vacances, mais vous pouvez toujours emmener vos petits bouts à la médiathèque José Cabanis tous les mercredis, alors à 11h pour les enfants de 2 à 4 ans et à 15h pour les plus grands à partir de 5 ans pour écouter donc des contes racontés par le personnel de la médiathèque. Donc c'est l'accès libre sans inscription et c'est au rez-de-jardin de la médiathèque. Je vous donne le numéro pour tout renseignement complémentaire: 05 62 27 64 91 05 62 27 64 91. Et puis on parle de la médiathèque, je ne peux pas passer à côté donc des marchands d'histoire qui vont bientôt terminer leur marche qui se termine donc le samedi 20 mai. Mais il y a encore une séance à la bibliothèque Saint-Cyprien qui aura lieu le samedi 6 mai à 11h. La bibliothèque Saint-Cyprien, je vous le rappelle, se situe 63 rue Réclusanne. Je vous donne le numéro afin de vous inscrire, afin de prévoir le nombre de places pour vos enfants. Rappelons que l'heure de ce conte dure la durée de ce conte dure environ une heure et c'est pour un public d'enfants de plus de 7 ans. Donc n'amenez pas vos tout-petits, ils risqueraient de s'ennuyer. Donc la bibliothèque Saint-Cyprien, c'est le 05 62 27 63 22, 05 62 27 63 22, et vous pourrez donc écouter un conte lu par Alain et Marie-France Bell, les conteurs donc des marchands d'histoire qui circulent dans toutes les bibliothèques de Toulouse depuis le mois d'octobre et qui vont achever donc leur périple au mois de mai, le 20 mai exactement, où je vous le rappellerai, à ce moment-là, il y aura une grande manifestation à la médiathèque. Et puis je continue avec au salon Privat. Le jeudi 11 mai à 18h, vous pouvez rencontrer Fatou Diomé pour son dernier roman qui s'intitule Kétala aux éditions Flammarion. Alors je vous rappelle que le salon Privat se situe 14 rue des Arts et Fatou Diomé a rencontré un immense succès avec son premier roman qui s'intitulait Le ventre de l'Atlantique et très attendu, donc Kétala, son deuxième roman, commence ainsi. Lorsqu'une personne meurt, nul ne se soucie de la tristesse de ses meubles. C'est vrai que c'est assez original. Donc que reste-t-il de nous, nos meubles, nos habits, ces objets familiers qui ont jalonné le sillage de notre vie? Ce sont eux les témoins de nos joies et de nos peines. Avec son talent de conteuse, donc Fatou Diomé leur donne la parole. Donc si vous voulez rencontrer cet auteur et faire connaissance avec son roman Kétala, vous venez le jeudi 11 mai à 18h au salon Privat. Et puis je terminerai cette petite page d'infos avec le Café de philosophie le jeudi 11 mai également. Comme c'est le deuxième jeudi du mois, le sujet est annoncé, je vais vous le dire. Donc je vous rappelle que le Café de philosophie, c'est au bar de l'Esquille, au Café de l'Esquille, qui est 63 rue du Thor. Ça commence à 19h30 et la fin du débat est prévue pour 21h30. Le numéro de téléphone pour tout renseignement, 05 61 23 42 46. Alors le sujet donc du 11 mai, la loi peut-elle être illégitime? Récemment, le premier magistrat de France recommandait de ne pas appliquer la loi. C'est donc du fondement de la légalité dont il est question. La présidence du débat et la reformulation seront assurées par Laurence Dupont et l'introduction et la synthèse par notre ami Jean-Philippe Blanchard. C'est ouvert à tous et les consommations sont au prix habituel.
Page à page, Claire Ambille.
Alors, je me tourne maintenant vers mon invité, donc Maud Langlais, qui est donc, comme je vous le disais au début de cette émission, qui est illustratrice pour livres, donc pour albums et donc pour jeunesse, pour enfants, enfants plus grands, plus, enfin, il y a un peu tous les âges, oui. Vous nous en parler. Donc, Maud, vous êtes née dans la région parisienne, mais vous êtes toulousaine maintenant, vous habitez dans notre région.
D'adoption.
Bon, voilà, toulousaine d'adoption. Vous avez donc des parents enseignants et donc vous avez fait donc bien sûr des études même de maths.
Alors oui, là, les maths mènent à tout.
Les maths mènent à tout, même au dessin. Donc vous étiez passionnée de dessin ouais. Dès le départ.
Oui, disons que les livres ont toujours eu une importance très forte dans mon enfance.
Donc maths et littérature, ouais. Quoi. Voilà les deux. Et donc vous avez eu envie. Bon, il faut quand même avoir une formation en dessin pour faire du.
C'est vrai que souvent les enfants, c'est ce qu'ils me demandent, mais moi je pense que tout le monde, tout petit, tout le monde dessine en fait. C'est un peu quelque chose qu'on perd. Ça me fait penser à Picasso qui disait qu'il avait tout le temps essayé de retrouver son dessin d'enfant en fait. Parce que c'est vrai qu'à 17 ans, il dessinait très bien. Et après, il a essayé de désapprendre à dessiner. Et donc, tout le monde sait dessiner. Après, c'est simplement une pratique régulière, un goût des couleurs, des matières.
Ça peut se perdre, quoi. C'est un peu un don qu'on perd en grandissant.
Une petite magie que les adultes perdent, ouais.
C'est ce que disait Arnaud Stern dans son livre. Je ne sais pas si vous connaissez Arnaud Stern. Justement, il dit exactement la même chose que vous. Et lui, il organise des ateliers à Paris pour justement que les enfants peignent sur des murs entiers de son atelier.
Et les enfants n'ont aucune inhibition en fait.
Voilà, oui, c'est ce qu'il expliquait, quoi. La création, elle est en eux, quoi.
Il faudrait refaire la Chapelle Sixtine sans problème.
Donc ce dessin, donc vous l'avez appris donc à l'école, entre autres de l'école Estienne,
ouais.
C'est ça.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai essayé après mon bac C. Bon, j'avais fait plaisir à mon père, prof de maths, donc ça c'était déjà très bien. Et en fait, je me suis inscrite à la fac, notamment en arts plastiques, mais aussi en histoire. Et j'ai fait une semaine de fac et ça m'a pas du tout plu du tout. J'ai trouvé ça inhumain, trop grand, pas rassurant du tout. Et je me suis dit, bon, profites-en pour complètement changer de voie. Et je me suis inscrite dans un atelier d'art plastique où j'ai fait que de la peinture pendant un an. Et où je me suis vraiment débloquée sur plein de choses. Bon, au début, mes parents avaient un peu du mal avec mes dessins parce que quand je les ramenais à la maison... Ils savaient pas dans quel sens il fallait les regarder.
Ah d'accord, ça, c'était rigolo. Un peu de l'abstrait ou...
Oui, oui. Enfin, c'était un besoin de dégripper le dessin en fait. Parce que moi j'avais un dessin plutôt, contrairement à mes livres maintenant, j'avais un dessin plutôt sage en fait quand j'étais ado. Et j'ai vraiment eu envie de trouver plus une personnalité qui me
correspond. De trancher avec ça et de faire sauter un peu en éclat le conventionnel quoi on va dire. Et donc vous avez obtenu donc le diplôme des métiers d'art.
Ouais.
Hein, avec les félicitations du jury. Si, il faut le dire. Et puis donc vous avez donc une prédilection plutôt pour tout ce qui est collage, mélange de différentes matières.
Oui, je crois que j'ai pas trop réussi à me poser sur une technique. Il y a tellement de choses qui me plaisent dans les arts plastiques que le collage, je trouve que c'est parfait parce que ça permet de tout se permettre, de tout mélanger. Et il y a un côté aussi que j'aime bien en collage, c'est le côté composition qui évolue à chaque étape du dessin. C'est-à-dire que quand on démarre un dessin à la peinture, mais si jamais on a raté quelque chose, on est un peu frustré parce que c'est difficile de récupérer.
Oui, c'est vrai.
Alors qu'en collage, moi, je fais plein de choses, plein de petites parties et j'attends vraiment la fin
pour les regrouper,
pour essayer de faire une mise en page qui me plaise. Et du coup, il y a ce côté construction toujours en mouvement qui me plaît bien dans le collage.
Vous travaillez donc avec des crayons, de l'encre, des craies, voilà.
Et pas mal de papier. C'est vrai que j'utilise beaucoup de récup de papier. Tout le monde me demande, mais où est-ce que tu trouves tous tes papiers? Donc, je suis très grenier, Emmaüs, brocante.
Voilà,
et j'ai des stocks.
Ouais, vous avez des stocks de papier.
Ouais.
Et alors donc depuis 1999, vous travaillez dans l'illustration donc d'albums.
Ouais, il y a eu un moment où je me suis dit il faut que tu te lances parce que le diplôme c'est bien, mais c'est pas un
diplôme ne
donne pas une ouverture forcément dans une maison d'édition.
Tout à fait.
Mais disons que j'ai eu la chance de rencontrer un écrivain avec qui on a fait quelques projets. Et on les a envoyés.
Écrivain jeunesse, un auteur jeunesse.
Alors en fait, il écrivait pas pour la jeunesse. Lui, il était dans le monde du polar à l'époque. Et moi, par rapport à mon style, j'avais plus envie de de m'intéresser à la jeunesse. Et donc, je lui ai dit, écris-moi plus des textes jeunesse.
D'accord. Et donc, du coup, il a écrit des livres
jeunesse.
Voilà, il m'a écrit
des histoires.
Et vous, vous avez mis en image ces histoires.
Oui. Et on les a envoyés à des éditeurs et on a eu la chance d'être retenus.
Ce sont les livres des éditions.
Alors, le premier, c'est La maison s'agrandit aux éditions Syros, qui est épuisée depuis, hélas. Et après, c'est les petits albums au Rouergue. Donc, le premier, c'était Pile ou Face.
Donc, c'est François Brault.
Voilà, l'auteur.
Et La maison s'agrandit, justement, j'y arrivais. C'est que, voilà, vous avez été, pour tout du moins cet album-là, La maison s'agrandit, vous avez été sélectionné par le jury, du jury pour le prix des Incorruptibles.
Oui. C'est un prix qui est assez sympathique dans l'esprit parce qu'en fait, ça, après une présélection, c'est donc des enfants dans des classes d'école qui votent. Pour les livres présélectionnés, et qui favorisent les rencontres entre auteurs et enfants. Donc les classes invitent les auteurs à venir raconter leur métier, à venir raconter leur manière de fabriquer les livres dans les classes. Donc pendant cette sélection, j'ai rencontré beaucoup de classes.
Et vous êtes venue d'ailleurs dans la région toulousaine à l'époque, vous n'y étiez pas encore.
Voilà, mais j'avais été invitée par des classes de Toulouse. Voilà,
donc La maison s'agrandit, qu'on peut certainement trouver à la médiathèque, au rayon jeunesse et dans les bibliothèques annexes.
Tout à fait.
Et donc, vous n'avez pas été sélectionné que pour ce prix-là. Hein. Je veux dire, je parle de celui-là parce qu'on parle de l'album La maison s'agrandit, mais vous avez été sélectionné pour de nombreux autres prix.
Oui.
Oui. mais si, il ne faut pas être modeste
les
comme ça,
Maud. Je rougis, ça se voit pas.
Non, à la radio, rien ne se voit. Ça s'entend,
c'est pratique.
Mais voilà, on ne voit rien. Donc Thomas Cotto, c'est un auteur dont j'ai déjà parlé, dont j'ai déjà présenté un ou deux albums. Et c'est un auteur jeunesse. Vous le connaissez également et vous avez un projet futur.
Oui, tout à fait. On s'est rencontrés sur un salon du livre parce que c'est vrai qu'on fait aussi pas mal de salons du livre qui sont un prétexte très intéressant pour rencontrer. Et le public, parce que c'est vrai que si on voit pas un peu les enfants et qu'on sait pas un peu aussi ce qu'ils pensent des livres, c'est frustrant.
Tout
et puis c'est bien d'avoir un retour, surtout qu'avec les enfants, y a pas de langue de bois en
oui,
général.
Oui, non, voilà, ils disent ce qu'ils pensent. J'aime pas.
Tout de suite,
voilà.
Et on rencontre aussi des auteurs, donc c'est le moyen de nouer des liens et pourquoi pas d'envisager de faire des projets à deux, d'autres projets. De livres. Et donc, avec Thomas, on s'est rencontrés sur un salon. Et après, on s'est rencontrés plus longtemps, puisqu'il m'a permis de faire une résidence d'auteur sur la région lannoise.
Dans le 02, hein,
voilà,
c'est ça ?
Voilà, pendant 3 mois. Et cette résidence d'auteur a permis aussi, justement, beaucoup de rencontres avec les enfants dans des classes d'école, où on a fait pas mal de projets, d'ailleurs.
Primaire et maternelle, les deux ?
Primaire et maternelle, ouais.
Et là, vous étiez tous les deux. Donc, il y avait
l'illustratrice
et puis l'auteur.
Donc, on n'était pas forcément tous les deux dans les classes, mais ce qui était vraiment très complémentaire et chouette, c'est que, par exemple, Thomas pouvait intervenir dans une classe pour un atelier d'écriture et donc permettre aux enfants d'écrire des histoires. Et moi, en plus, j'arrivais après et on illustrait forcément
ses écrits.
Donc, c'était très complémentaire et ça ressemblait à ce qu'on peut faire nous-mêmes dans nos livres.
Donc voilà, donc il y a eu ce projet-là qui a été fait donc avec Thomas Cotto et donc un autre pour un prochain album où on verra deux noms à coller.
On aimerait bien.
Bah écoutez, on croise les doigts. Et donc dans les écoles, on parle d'écoles justement. Donc actuellement, vous illustrez donc des livres bien sûr, mais vous faites aussi des animations, des interventions dans les écoles, notamment à Saint-Jean.
Oui, en ce moment je suis intervenante en art plastique, donc j'y vais vraiment pour les faire peinturlurer le plus possible. Ils sont pas notés. Les premières choses qu'ils me demandent, c'est est-ce qu'on va être notés? Moi, je dis non, vous inquiétez pas, en art plastique, vous êtes là
la
pour faire
plaisir. La peur toujours de la note.
Et donc, on fait plein de projets sympas en partant de peintres ou de techniques nouvelles qu'ils connaissent pas. Ils apprennent à utiliser langue de Chine.
C'est une fois par semaine, vous faites?
Oui, moi j'ai beaucoup de classes.
Oui,
mais
il y en a 14 à peu près.
Voilà,
hein,
je les vois qu'une fois par semaine, malheureusement,
oui,
j'interviens quasiment dans toute l'école, donc c'est assez riche.
Oui, donc voilà, vous êtes en contact vraiment direct avec, avec les enfants pour leur faire toucher du doigt votre, votre passion, oui. Votre métier. Oui, oui. Et alors, la question qu'on se pose, c'est comment... il faut déjà avoir un bon coup de crayon, j'imagine, pour arriver à illustrer des livres. Mais alors, comment ça se passe? L'auteur écrit le livre et après, vous faites les dessins par rapport à l'histoire, ou le contraire? Comment ça se passe au niveau du métier proprement dit pour illustrer un livre?
En fait, il y a plusieurs cas de figure dans le monde de l'édition. Alors, j'en ai connu surtout deux. Le premier, c'est qu'un éditeur va mettre en relation un auteur, c'est-à-dire qu'il a déjà reçu un texte, et donc il va choisir un illustrateur, lui, qui connaît déjà, et demander à cet illustrateur d'illustrer les textes. Par exemple, pour les livres de poésie que j'ai fait aux éditions L'Idée Bleue, moi, je connais pas deux des auteurs sur trois. Donc j'ai juste reçu les textes et l'éditeur m'a dit: qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que tu pourrais t'accorder à cet univers et illustrer? Et le deuxième cas de figure, qui à mon sens est aussi riche parce que du coup on travaille vraiment en amont, c'est de travailler avec un écrivain avant l'éditeur et de faire un projet à deux.
Donc faut connaître un écrivain de manière plus personnelle, on va dire, le connaître et puis d'avoir envie de travailler ensemble et après d'aller présenter son projet fini à un éditeur. Et ça vous arrive de recevoir par exemple des propositions, de choses que vous n'aimez pas ou que ça ne vous parle pas et que vous n'arrivez pas
venant d'un éditeur, ça m'est pas arrivé encore parce que c'est vrai que du coup l'éditeur, lui, comme il a déjà sélectionné le texte, il a déjà trouvé des qualités dans ce texte et c'est rare que
moi que pour vous, le moment, vous n'en trouviez pas quoi.
Puis moi c'est vrai qu'en dessin je suis pas trop sèche quoi, j'ai pas l'angoisse de la page blanche. C'est pas
il y a,
c'est
y a
pas
quelqu'un
comme l'écriture.
Qui vient, il y a quelque chose qui vient
oui,
forcément
voilà,
quoi.
C'est,
donc
c'est un peu inconscient mais ça arrive comme ça sur le papier. Je pourrais pas vraiment expliquer comment.
Non, c'est intérieur, hein. Ouais. Et sinon, oui, donc, et après, un écrivain, des écrivains que vous connaissez, genre, si vous les connaissez, c'est que forcément, vous accrochez avec eux.
Il y a peu
de chances que vous n'aimiez pas ce qu'ils font, quoi.
C'est plus délicat quand des fois, on reçoit des textes de gens qu'on connaît pas forcément et que les gens ont envie de collaborer, mais c'est vrai que c'est des rencontres.
Sans passer par l'éditeur, quoi.
Voilà, c'est des rencontres qui peuvent pas être superficielles, donc il faut vraiment qu'il y ait un accrochage
Vous pouvez pas faire quelque chose sans avoir, sans aimer l'histoire, quoi.
Ouais.
Il faut vraiment.
C'est vrai que c'est la richesse de ce métier aussi et le luxe qu'on a, qui n'est pas forcément un luxe financier, mais du coup, on a vraiment le luxe de la liberté et
De choisir ce que vous aimez et avec qui vous avez envie de faire tel ou tel livre.
C'est vrai que moi, mes livres, j'en ai pas beaucoup, mais c'est vraiment des petits bébés, c'est des choses qui me tiennent à cœur.
Oui, comme les
quoi.
Écrivains, les auteurs pour adultes, quoi, qui leur dernier né, ça sort d'eux-mêmes.
Exactement.
Voilà, il n'y a que de l'écriture. Bon, là, il n'y a pas de dessin, mais c'est un peu le même principe. Donc finalement, l'écriture et le dessin, c'est un langage. C'est un peu le même langage, quoi, finalement.
Ouais.
On se retrouve après une petite pause musicale avec Supertramp.
Take a look at my girlfriend. She's the only one I got. Not much of a girlfriend. I never seem to get along. Thank you.
Nous revoici dans votre émission Page à Page, où je reçois aujourd'hui Maude Langlais, qui est donc illustratrice pour Album Jeunesse et qui participe, enfin qui va dans les écoles, dans des classes maternelles et primaires pour donc parler de son métier, de sa passion, qui est donc d'illustrer, de dessiner, de coller, de découper. Et donc on va parler là dans cette seconde partie d'émission donc de vos albums. Alors c'est sûr, à la radio on ne peut pas les montrer,
c'est dommage
parce que moi j'ai trouvé, bon, comme j'ai une petite, je manipule pas mal d'albums pour petits, et genre les vôtres sont vraiment, enfin je veux dire, ceux que vous illustrez, tout du moins aux éditions du Rouergue, sont tout à fait originaux, enfin les dessins sont originaux, moi je trouve, j'avais jamais encore rencontré de dessins comme ça. Et on pourrait dire même que les albums sont faits pour les un peu plus grands que 2-4 ans, hein.
les albums du Rouergue,
c'est plus même s'il n'y a pas beaucoup de texte, on va dire, et beaucoup d'illustrations.
C'est pour les plus grands.
C'est quand même pour les plus grands.
Mais moi, je défends l'idée qu'un album doit aussi s'adresser aux grands. Et c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, les enfants disent oh « Non, moi, je veux plus voir d'album, c'est pour les bébés. »
Et oui, je trouve ça vraiment dommage. Et pas beaucoup
voilà.
de texte.
Parce que même un adulte, enfin, on voit souvent des adultes s'acheter des albums pour eux parce qu'ils les trouvent beaux.
Beau, oui,
et que maintenant, il y a beaucoup de styles différents. Donc, on peut vraiment trouver son compte.
Moi, j'en profite avec ma petite, quoi. Ça me fait très plaisir de feuilleter ces albums. Et donc ceux des éditions du Rouergue, ils sont originaux aussi parce que il y a des reproductions, enfin là donc comme on vient de le dire, c'est un peu pour les adultes, il y a des reproductions de vieilles affiches, de vieilles pubs.
Ouais, alors je sais pas trop pourquoi m'est venu ce goût, mais moi j'aime bien tout ce qui est brocante, et donc cet univers de brocante, il est venu se glisser dans mes dessins un peu sans que je m'en rende compte. Et quand j'étais à faire des collages. Bon, alors du coup, pile ou face, ça tombait drôlement bien parce que ça se passe dans une épicerie. Donc il y a Monsieur Ahmed qui est épicier. Et du coup, pour rendre l'univers de l'épicerie, c'était super chouette
Il y a l'épile Mazda, il y a toute cette vieille, toutes ces vieilles.
Il y avait plein de choses à imaginer, plein de scènes de comptoir. Et je me suis vraiment fait plaisir en cherchant des vieilles pubs. Et c'est vrai que j'ai des vieux magazines, des vieux Par Images, des choses comme ça. Et quand je les feuillette, ça me fait vraiment rigoler. Pour moi, c'est quasiment comme une époque un peu mystérieuse, parce que c'est vrai que c'est souvent les années 50, donc c'est même pas des souvenirs.
Il y a
un côté un peu magique dans la manière, en plus, dont la ménagère est montrée, qui est assez. Un peu quand même très machiste, c'est toujours la femme qui passe, qui fait le ménage, qui passe le balai et tout ça. Et j'avais envie de détourner un peu ça dans un univers plus moderne, peut-être au niveau du graphisme, au niveau de mes dessins de personnages, en fait, je pense.
Et on voit dans les albums que donc les personnages, donc vous les faites, vous faites plusieurs superpositions, en fait.
Alors
vous
pour Pile ou Face, je sais pas pourquoi non plus, j'ai eu envie de faire des personnages avec du carton. Donc, je les ai dessinés dans du carton, je les ai découpés. Donc, ça faisait un petit peu aussi comme des espèces de jouets. Hein. Mais c'est vrai que dans l'illustration, il y a un côté très enfantin. Maman me dit souvent, mais ma fille, t'es restée à la maternelle. Et c'est vrai que c'est un âge très sympathique.
Ah oui, oui, oui.
Et donc, avec ces petits personnages carton que j'avais, je m'amusais en fait dans mes illustrations à les placer dans des pages. Et alors le côté carton, c'est vrai que il se sent pas quand on touche les
quand on touche au niveau tactile, mais on le voit au niveau visuel, on voit l'ombre, voilà, il y a un trait quand même qui est plus épais.
Et les enfants s'en rendent compte tout de suite. Que c'est du carton, et ça les étonne d'ailleurs de pas sentir le carton.
Ben oui, parce qu'après bon, il y a tout le système technique d'impression qui forcément affine. Je veux dire, on va pas mettre bon, quoi qu'il y a des livres.
Il y a, des livres avec du volume. Tout à fait. C'est vrai que ça coûte plus cher et on peut pas le faire partout.
Donc dans la collection du Rouergue, on a Pile ou Face, on a À quoi sert le zizi des garçons, grande question.
Oui.
On a également.
Qui intéresse les adultes aussi d'ailleurs.
Voilà, à bon entendeur. Alors Je sais pas quoi faire également.
Une question récurrente des enfants.
Voilà, avec l'orthographié, CHEPAKOIFIRE, quand même.
Je sais pas quoi faire. En un seul mot.
Voilà, en un seul mot et très façon texto, on va dire.
Ouais.
Ou SMS, faut se mettre à la page. Et puis après, donc, on a d'autres collections, on a d'autres éditions. Donc, vous avez de la poésie.
Alors ça, c'est de la poésie. C'est un éditeur de poésie en Vendée qui fait des très très jolis petits livres. Qui a donc cette collection qui publie que de la poésie. Alors, il publie de la poésie adulte et de la poésie enfant. Donc moi, les trois que j'ai illustrés, c'est pour la poésie enfant, parce qu'on a la chance de pouvoir faire plein d'illustrations couleurs dans cette collection. Et je trouve que proposer de la poésie aux enfants, c'est aussi une démarche intéressante.
Oui, tout à fait. Donc ça, c'est donc édité chez...
L'Idée Bleue.
Et ensuite, donc...
Et ça, c'est le dernier album.
Le dernier album qui s'intitule « Qui a volé la camionnette d'Ahmed ?»
Voilà.
Hein, et qui est aux éditions...
Casterman.
Voilà. Et donc là, on retrouve là sur la couverture, là, on retrouve un personnage. On le touche, mais on a l'impression qu'effectivement, il est cartonné. Mais bon, il est plat, mais il est vraiment très...
Sur l'original, c'est du carton.
Voilà, c'est du carton. Voilà, on voit un monsieur avec un chapeau et une grosse loupe.
Voilà.
Donc apparemment, c'est un peu une histoire un petit polar.
C'est une enquête.
Pour enfants, voilà,
c'est une enquête.
Ouais. Et donc l'auteur, c'est François Brault.
Voilà.
Toujours, donc comme pour les éditions du Rouergue, là, les titres que je vous ai donnés tout à l'heure. Et à la fin donc, de ce livre, Qui a volé la camionnette d'Ahmed, il y a un lexique qui reprend les différents...
Les termes, disons, les plus utilisés, mais qui peut-être pour les enfants sont des fois difficiles, comme témoin, coupable, preuve. Et donc on a fait un petit jeu avec un trousseau de clés pour que les enfants puissent retrouver les définitions.
Avec les définitions, voilà.
Exact.
Donc voilà, donc c'est chez Casterman, donc qui a volé la camionnette d'Ahmed. Et puis donc on avait dit le prix des incorruptibles, enfin la sélection du prix des incorruptibles, la maison s'agrandit et qui est disponible donc en bibliothèque ou en médiathèque certainement. Tout cela sont disponibles dans les magasins.
Toujours, oui.
Hein, voilà, qui a volé la camionnette d'Ahmed, la poésie donc pour les enfants et puis donc les albums du Rouergue. Vous avez quand même édité également un livre pour ceux qui savent déjà lire aux éditions du Rouergue.
Oui, toujours au Rouergue, c'est une petite collection. Zigzag, qui est assez chouette, je pense, pour les enfants qui commencent à lire, parce qu'il y a beaucoup d'illustrations. Alors, elles sont en noir et blanc, mais par contre, ça fait plein de petites vignettes qui entrecoupent le texte.
Voilà,
donc
je pense
que ça
texte
les encourage
n'est pas
dans
compact.
La lecture.
Voilà, tout à fait. C'est pour les, on va dire, les 7-8 ans, enfin 7-9 ans, ça s'appelle
c'est pour les débutants lecteurs.
Adieu signé Nils. Et voilà, ce qu'il y a de bien, c'est que le texte n'est pas compact. Il y a il y a quelques lignes, il y a une quinzaine de lignes, puis hop, il y a un petit dessin en noir et blanc qui vient illustrer
souligner,
les quelques lignes. Et voilà, il y en a pratiquement, il y en a à toutes les pages, des dessins. Il y en a même des fois.
Ah oui, l'éditeur m'en a demandé d'en refaire
plein. Là, je vois même une double page avec, il y a beaucoup de, c'est très illustré. Je trouve que c'est très bien pour ceux qui commencent à lire, pour pas que ça les bloque pour la suite. Et vous vouliez rajouter quelque chose, Maud, avant qu'on se quitte? Malheureusement,
c'était trop court.
Mais vous reviendrez avec le projet.
Avec les prochains livres.
Voilà, puis peut-être avec Thomas Cotto, si vous arrivez
à
le...
Il faudrait que j'attire à Toulouse.
À le faire venir jusqu'ici.
Ouais.
Vous vouliez donc, donc on vous souhaite surtout pour les écoles de continuer à venir.
Et puis à faire plein d'autres livres.
Et à faire plein d'autres livres. Et puis, vous comptez changer de style ou de...
Alors, c'est vrai que le projet que j'ai avec Thomas Cotto, c'est un projet pour les plus petits. Donc, je vais essayer aussi de me diriger peut-être vers un univers un petit peu plus doux, un petit peu plus pastel.
Plus pastel, plus naïf, plus de 2-4 ans.
Voilà. Donc ça, c'est un projet qui me plaît bien. D'essayer d'utiliser ce que je sais déjà, mais en modifiant quand même.
Vous nous tenez au courant, puis vous revenez.
D'accord.
Ça sera avec plaisir. Merci, Maud.
Moi aussi, merci.
Et puis, pour nous, à la semaine prochaine, Adiciats à tous. Et je vous rappelle simplement que vous pouvez découvrir ou réécouter les émissions de Page à Page sur le site que je vous donne, pageapagetoulouse.free.fr, le tout attaché en minuscules et au singulier. Merci et à la semaine prochaine. Adiciats à tous.